CCE, vous informer et vous donner la parole.
Bonjour Chaville, il est 8h et vous écoutez Radio VCE. Aujourd'hui, autour de la table, Monique Couteau, tu vas nous parler de la sécurité sociale.
Oui, parce que la sécurité sociale, c'est vital.
Sera suivi de Clément Chassin pour sa chronique à table. Et cette fois-ci, tu nous parles de tubercule.
Eh oui, de patates.
Et sera suivi de la chronique d'Alain de Frémont, Art et Culture, cette fois-ci sur la cité de la
langue à Villers-Cotterêts.
Tout de suite, dossier du quotidien.
Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
La sécurité sociale, elle fait partie de tout notre parcours de vie, à tel point que l'idée de sa disparition nous paraît inconcevable. Grâce à elle, quelle que soit notre place dans la société, pauvre, riche, jeune, vieux, on se soigne, on élève les enfants, on touche une retraite. Et pourtant, cette richesse collective est régulièrement menacée, remise en question par certains politiques.
Tu veux bien rappeler les conditions de sa création et les valeurs fondatrices de cette institution ?
La France, elle est détruite par la Seconde Guerre mondiale et le rapport de force est favorable au monde du travail et à ses représentants syndicaux, notamment la CGT, fortement engagée dans la résistance, face à un patronat, lui, souvent compromis avec le régime de collaboration avec l'occupant nazi. Les principes fondateurs, l'universalité et l'égalité. Tous les citoyens et résidents en bénéficient, indépendamment de leur situation. Chacun doit avoir accès à des soins de qualité, sans discrimination liée à ses ressources financières ou à son statut social. L'unicité, une institution unique et obligatoire qui couvre l'ensemble des risques sociaux, maladie, vieillesse, décès, invalidité, accident du travail, famille, maternité, etc. Solidarité entre tous les citoyens. Les cotisations versées par les actifs permettent de financer les prestations pour tous ceux qui en ont besoin. La Sécu est intergénérationnelle et concerne les malades et les bien portants. La création de la sécurité sociale constitue une véritable révolution. Une institution financée par les cotisations salariales et patronales est gérée par un conseil d'administration composé aux trois quarts de représentants de salariés et d'un quart du patronat. C'est-à-dire une institution qui, par son financement et sa gestion, échappe totalement à la loi du marché. Et pour les fondateurs, la demande sociale prime sur la question du financement. En résumé, chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. C'est la définition reprise de la solidarité qui avait été donnée par Louis Blanc, membre du gouvernement provisoire de la Seconde République en 1848. Les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 créent la sécurité sociale. Mais dès 1949, ses détracteurs à l'Assemblée nationale disent qu'elle coûte cher, qu'elle laisse proliférer les abus, qu'elle favorise l'absentéisme, qu'elle baisse la productivité des entreprises.
Quelles sont les motivations et les arguments de ceux qui la remettent en question ?
Eh bien, justement, qu'elle échappe à la loi du marché, d'autant que les dépenses de santé constituent un pactole bien tentant. Les dépenses de la sécurité sociale pour 2025 sont fixées à plus de 666 milliards d'euros, toutes branches confondues. Les arguments sont toujours les mêmes. Au nom de la protection des Français et de la bonne gestion des comptes publics, et c'est ainsi que des réformes ont progressivement fragilisé la sécurité sociale. Tout d'abord, sous le gouvernement Pompidou, en 1967, par les ordonnances Jeanneney, c'est là que le mode de gestion a été remanié autoritairement avec une réforme basée sur la séparation des risques en trois branches. La caisse santé-maternité, la caisse famille, la caisse vieillesse, qui doivent donc chacune équilibrer leur budget. Et les ordonnances ont imposé également une gestion paritaire du salariat et du patronat sans élection. 9 membres sont nommés par les syndicats, 9 membres nommés par le patronat.
Et depuis cette première réforme, quelles ont été les évolutions ?
La deuxième phase a été de faire basculer une partie du financement de la protection sociale de la cotisation par les salariés et le patronat vers la fiscalité, donnant ainsi à l'État le pouvoir de contrôler les dépenses et les ressources. C'est une loi qui, aujourd'hui, fixe l'enveloppe des dépenses de santé et surtout celle des économies et celle également des exonérations de cotisations sociales. Sous le gouvernement de Michel Rocard en 1991, la CSG, contribution sociale généralisée, a été inventée. Son taux initial était de 1,1%, il est passé à 2,4% en 1993, à 3,4% en 1996, à 7,5% en 1998 et en 2025, il est à 9,2% pour les salaires, 8,3% pour les retraités, avec quelques exceptions pour les retraites à faible revenu. A aussi été créée la contribution au remboursement de la dette sociale, CRDS, qui est aussi une fiscalité. La réforme Juppé en 1995 institue un vote au Parlement sur le budget de la Sécu, c'est la fameuse loi de financement de la sécurité sociale, LFSS. Et si les gouvernements ont recours de manière privilégiée à ces impôts, c'est parce qu'ils sont destinés à éviter une hausse des cotisations sociales et à compenser l'absence d'augmentation des salaires. Puisqu'augmenter les salaires, c'est non seulement partager des profits réalisés plus équitablement, mais aussi accroître le montant des cotisations destinées au financement de la protection sociale et particulièrement des remboursements et des retraites. Il est utile de rappeler que le salaire est composé d'une partie du net à payer et d'autre part du brut, c'est ce qui est le salaire socialisé qui sert pour la vie par les cotisations mises dans le pot commun de la sécurité sociale. Depuis 1993, avec les réformes Balladur, le patronat bénéficie d'exonérations successives de plus en plus importantes. En 2022, elles s'élevaient à près de 75 milliards d'euros. En 2025, on en est à 80 milliards d'euros. Ainsi, l'ambition d'universalité a été détournée, la Sécu assurant de plus en plus les risques non rentables pour le marché. C'est ainsi qu'on constate la hausse des franchises médicales, la réduction des remboursements de médicaments et la réduction des arrêts maladie, mais aussi, par la contrainte des économies de dépenses publiques de santé, l'affaiblissement de l'hôpital public et le développement des groupes de cliniques privées, et la captation par le privé des secteurs les plus rentables du système de santé, les assurances, les complémentaires santé, les retraites par capitalisation. Ce qu'on peut résumer par la marchandisation de la santé.
Merci beaucoup Monique pour ce rappel sur l'histoire de la création de la sécurité sociale. Des ouvrages à lire, La bataille de la sécu de Nicolas Da Silva, économiste, maître de conférences à l'université Sorbonne Paris Nord, édition La Fabrique 2022, nombreux autres ouvrages aussi, ou revues, articles édités par les grandes confédérations syndicales, notamment la CGT, compte tenu évidemment de son rôle important au moment de la création de la sécurité sociale. On passe tout de suite à Clément Chassin.
Bon appétit, bien sûr.
À table avec Clément Chassin.
Oui, donc aujourd'hui, je vais vous parler de tubercule, effectivement. Je vais vous parler de pomme de terre, puisque la pomme de terre est un tubercule. En fait, pour en sentant venir la mauvaise saison, les plantes ont trouvé un stratagème. Elles créent un organe de réserve, ça s'appelle la tubérisation. Mmh. Et donc, il y a une partie de la tige ou de la racine qui va gonfler, et ça donne le tubercule.
C'est ce qui absorbe l'oxygène, non ? C'est comment ça marche alors ?
Non, c'est un organe de réserve pour faire des réserves en prévision de la mauvaise saison. Donc, c'est pour ça que les tubercules, donc le tubercule, donc par exemple la pomme de terre, c'est une partie de la tige qui est hypertrophiée en prévision de la mauvaise saison pour stocker de l'amidon. Qui permet à la plante du coup d'avoir de l'amidon pour passer la saison. C'est comme la marmotte qui se nourrit avant d'hiberner.
C'est voilà. Comme Jonathan.
Voilà. Oui, là, on est en train de déguster un gâteau. Tu sais ça, c'est, tu nous as fait un gâteau
oui.
aux pommes de terre, alors. Enfin, au tubercule.
Avec, entre autres, de la pomme de terre.
Ah, il n'y a pas que ça.
Voilà.
Ça, ouais. C'est bon.
C'est bon, hein. Et voilà. Donc, effectivement, donc, les tubercules... C'est riche en amidon et plus généralement c'est riche en glucides complexes puisque l'amidon c'est ni plus ni moins qu'un glucide complexe. Voilà, donc c'est très nutritif, c'est vachement bon.
Ah ouais.
Parmi les tubercules connus, on a
la pomme de terre,
voilà. On a le navet, voilà. Le céleri rave, la betterave, le radis, la carotte et bien d'autres, hein, le pané, le rutabaga.
L'asperge, c'est le tubercule ou rhizome?
Ah non. Non, c'est pas un tubercule l'asperge.
Ah. L'asperge.
Voilà. Mais donc voilà, donc il y a plein de tubercules très connus. Voilà. Mm-hmm. Donc là aujourd'hui, la pomme de terre. Pourquoi je vais vous parler de la pomme de terre? Parce que j'adore la pomme de terre.
Nous aussi.
Voilà. C'est une très bonne raison. Parce que la pomme de terre, ça a des qualités alimentaires et agricoles phénoménales. Mmh. Alimentaire, comme je vous disais, c'est riche en amidon, c'est vraiment une base alimentaire. Et agricole, c'est une culture très productive. Ça produit très bien et il y a, je crois que c'est 85% de la matière sèche récoltée qui peut être utilisée pour l'alimentation humaine. Mmh. Voilà. Alors que les céréales, il y a que, je crois que c'est 50% de la matière sèche qui au final est utilisée. Non, c'est vraiment très productif. Mmh. On retrouve de la pomme de terre dans plus de 150 pays. Ça pousse à peu près partout. Et c'est une très bonne tête de rotation. Voilà. Tu sais ce que c'est une tête de rotation?
Oui.
Oui. Attends, elle mange, laisse-la tranquille.
Voilà.
C'est quoi une tête de rotation alors?
Tu vas changer, tu vas changer de culture et donc ça, tu démarres par ça et comme ça, ça te nettoie le sol et après.
Voilà. Pour éviter de d'épuiser les sols, on fait tourner les cultures et on va commencer par la pomme de terre parce qu'effectivement, ça va permettre de pas épuiser le sol. Voilà. Après la pomme de terre, tu vas pouvoir mettre du blé, du colza, de la betterave sucrière, enfin des trucs qui là par contre vont vraiment épuiser les sols. Voilà, non, la pomme de terre c'est génial parce que ça épuise pas le sol et en plus ça a un super rendement, donc c'est vraiment génial. Donc que des qualités très adaptées à notre climat voilà, et à nos sols franciliens, donc ça pousse très bien. Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait de la pomme de terre?
Des frites.
On peut en faire plein de choses. Et du coup, exceptionnellement, je me suis dit, tiens, je vais faire une recette qui demande un peu de préparation, mais qui change un peu. Voilà, parce que bon, c'est vrai que la pomme de terre, on connaît tous. Et je me suis dit, j'ai envie de donner envie. Voilà, envie d'avoir envie.
Voilà.
Et donc, ça demande un petit peu de préparation, pas énormément. Ce qui est plus compliqué, c'est qu'il faut avoir 300 grammes de pommes de terre cuites sous la main. Voilà. Alors, j'ai envie de dire, moi, c'est pas un souci parce que j'ai toujours des pommes de terre à l'eau dans le frigo. Ah. C'est une très bonne base.
Ouais.
Tu rentres le soir, t'as pas envie.
Ah, oui.
Honnêtement, le jour où j'ai la flemme de faire à manger, j'ai des pommes de terre à l'eau dans le frigo.
Et tu t'es fait sauter,
avec un petit
salade,
peu de beurre, même avec un petit peu de beurre, un petit peu de fromage frais.
Ça se conserve bien en frigo, les pommes de terre à l'eau?
Oui, ça se conserve.
Combien de jours à peu près?
Quelques jours. Hein,
ouais, trois jours.
Une dizaine de jours?
Non, trois.
Faut pas exagérer, mais 3-4 jours, ça passe.
Parce qu'après, ça noircit. Donc voilà. 3 jours.
Mais 3-4 jours, voilà. Et ça te permet de te faire un repas simple, nourrissant. Oui. Tu mets une feuille de salade avec, c'est bon, t'as ton repas. Quoi. Voilà, donc moi j'ai toujours des patates à l'eau dans le frigo. Du coup, là, quand j'ai voulu faire ma recette, ça tombe bien, j'avais des patates à l'eau sous la main. Et bon, du coup, après, c'est assez simple. Tu prends 300 grammes de patates.
Alors,
cuites,
oui.
4 œufs.
Ouais.
150 g de sucre, 100 g de beurre ou de margarine et 120 g de poudre d'amande.
Mmh. Oui, c'est ça,
c'est
qu'on
l'amande.
Sent. Ouais. On sent l'amande.
Ouais, je me disais quand même, il y a un complément là.
Voilà. Mmh. Et c'est tout. Et tu mélanges tout ça. Tu mélanges tout ça. Alors, moi, alors c'est vrai que le gâteau que j'ai fait là, il est un peu couleur un peu marron.
Ouais.
Parce que j'avoue que moi, je mets tout.
Tout
je mets la pomme de terre avec la peau.
D'accord. Ah, je sentais le goût de la peau aussi.
Mais oui, mais moi j'aime bien ce petit goût de la peau. parce que je suis un gros feignant.
Parce que c'est la peau qui donne cette couleur. Non, sinon quoi, c'est plus jaune.
Bah, sinon, ce sera plus clair. Oui,
ah, oui c'est vrai que c'est très brun là.
Tu peux dire 300 grammes de pommes de terre.
Donc 300 grammes de pommes de terre, 4 œufs, 150 grammes de sucre.
Et la poudre d'amande.
100 grammes de beurre ou de margarine, si tu veux pas de beurre. Et 120 grammes de poudre d'amande. Voilà.
Mmh. Eh ben, c'est délicieux.
À signaler, du coup,
très bon.
Il y a pas de gluten.
C'est surprenant.
Pour les gens qui sont allergiques au gluten, voilà, si tu le fais...
Il n'y a pas de sucre et pas de matière grasse.
Il y a peu de sucre. Il y a 100 grammes de beurre. Il y a 100 grammes de beurre quand même.
Du beurre.
Il m'évente du rêve.
Alors, les 100 grammes de beurre, tu peux mettre de la margarine aussi pour les gens qui sont intolérants. Non, mais pour les gens qui sont intolérants au lactose, pour les gens qui sont intolérants au gluten, c'est quand même une alternative assez efficace. Voilà, après, pour le goût, donc là, je l'ai fait assez simplement, mais tu peux mettre un jus de citron. Tu peux mettre un peu de rhum, tu mets une cuillère de rhum, tu peux mettre...
Une seule
ou plus. Voilà, tu peux mettre plein de choses. Et voilà, donc tu mélanges 40 minutes au four.
Arrête avec tes blagues, Monique.
Non, si, est-ce qu'on peut faire un baba au rhum et à la patate?
Voilà.
On peut faire un gâteau.
Je pense que ça peut marcher.
Ça peut peut-être marcher.
Et là, la texture, c'est extrêmement très fondant. Très ce qui fait que du coup, on vient de finir la moitié du plat.
Ouais.
À 2,5, 2,3. C'est toujours cette consistance-là ou c'est.
C'est toujours.
C'est beurré, je pense que c'est bien beurré parce que pour qu'il y ait cette consistance.
Alors la pomme de terre, va donner un côté très moelleux.
Ouais.
Aussi. Et un des gros avantages que j'ai repéré avec ce gâteau, que je fais assez régulièrement, qui marche toujours bien, c'est que effectivement avec la patate, ça fait un gâteau moelleux et qui reste moelleux. Tu peux le garder plusieurs jours.
Ouais, bien sûr.
Il va rester très moelleux. Il va pas sécher. Il va pas.
Ouais, c'est l'amidon.
Et du coup, c'est vraiment, ça a plein de qualités. Ça fait vraiment un gâteau ultra moelleux.
C'est impressionnant. Et si on met pas d'amande, ça le fait ou c'est. Parce que là, quand même, l'amande joue quand même un sacré rôle.
Il y a 120 grammes de poudre d'amande. Il faut en mettre un petit peu quand même.
Un macaron.
120 grammes, c'est pas mal. 120 grammes, c'est ce qu'on met pour faire des visites en dîner, des choses comme ça. C'est une bonne.
Oui, c'est ça.
Il y a 300 grammes de patates quand même.
Oui.
La base, c'est quand même.
Oui, ça remplace la farine, les patates.
Et voilà, ça remplace la farine avec l'avantage il n'y a pas de gluten pour
ça c'est bien
pour qu'il ça pose problème et que ça fait un truc très moelleux et puis ça change, ça fait un truc original. Voilà.
Là tu nous fais une proposition de recette, on pourrait remplacer quelque chose là dedans ou rajouter quelque chose par l'amande, t'as déjà essayé d'autres choses ou...
Pour remplacer l'amande là j'ai pas trop cherché
la pistache.
J'avoue que cette recette là elle fonctionne bien, donc je me pose pas trop de questions à partir de ça. Peux rajouter pour mettre du goût.
Voilà.
Tu peux rajouter ce que je disais,
citron,
tu prends un citron,
cannelle,
tu peux mettre un peu de cannelle. Avec du rhum, ça marche bien. J'ai essayé, ça marche bien pour les gens qui aiment bien le goût.
Oui, elle aime bien, Monique.
Mais moi aussi, j'aime bien. Là, avec du rhum, ça donne un petit goût, c'est très sympa. Voilà. Voilà, donc c'était
super, une nouvelle recette,
pommes de terre,
une nouvelle recette,
un dessert sympa.
Voilà, on saura quoi offrir quand on invite des amis à la maison, de la famille, pour faire des gâteaux soi-même avec des pommes de terre. On passe tout de suite et dernièrement à la chronique culture et art.
Bande annonce avec Alain de Frémont.
Oui, bonjour Jonathan, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vous emmène en balade à quelques 85 km de Chaville, vers Villers-Cotterêts. En plein centre-ville, vous découvrirez la Cité internationale de la langue française, inaugurée récemment, le 30 octobre 2023, dans cette petite bourgade du Nord, qui depuis retrouve des couleurs touristiques et économiques. La Cité internationale de la langue française est un lieu culturel entièrement consacré à la langue française et aux cultures francophones. Elle a pris place dans le château de Villers-Cotterêts, qui se trouve lui-même dans le département de l'Aisne, en région Hauts-de-France. Ce château est le lieu même où le roi François Ier a signé l'ordonnance de 1539 rendant obligatoire l'usage du français dans les actes de l'administration et de la justice en France. Il s'appuie sur une soixantaine de dispositifs innovants, de médiation et de précieux objets, documents et œuvres prêtées par une vingtaine d'institutions nationales et internationales partenaires, l'Académie française, le Centre national des arts plastiques, la Comédie française, le Musée du Louvre, le Musée de l'Armée, le MUSEM, le Musée national de l'éducation, le Musée national des arts plastiques, guillemets, Musée des beaux-arts de Tours, Musée de la filialisation du Québec, etc. Quand on entre, on voit tout de suite une verrière qui a été créée et recouvre toute la cour. Cette verrière est complétée d'un ciel lexical constitué de 100 mots en suspension, dont le choix a été fait par les Cotérésiens, c'est les habitants de Villers-Cotterêts. On y découvre des mots provenant de pays francophones. Je vous donnerai un exemple comme caïmenté, qui peut signifier, suivant le pays d'origine, ça peut signifier tromper ou bien travailler intensément. C'est quand même pas la même chose. Dès la première salle, un château, un territoire qui est en accès libre et gratuit, on découvre l'histoire du château et de son architecture à travers une grande fresque chronologique, une maquette tactile et une projection monumentale qui retrace les évolutions du domaine et de son lien avec la forêt, la ville et le territoire du Valois. Dans de courts entretiens filmés, plusieurs habitants de Villers-Cotterêts font aussi appel à leur mémoire et témoignent de leur attachement au château, à son parc, à la forêt de Retz, célébrée en son temps par le cotérésien Alexandre Dumas. Excusez du peu. Le Valois est une terre d'écrivains où vécurent, outre Dumas, Jean de La Fontaine, Jean Racine, Camille et Paul Claudel. Le parcours de visite est constitué de 15 salles réparties en 3 thèmes, une langue monde, une invention continue et une affaire d'État. Il présente l'aventure du français, sa diffusion dans le monde, son évolution au contact des autres langues, son lien à la construction politique de la nation, son rapport aux langues régionales, sa constante réinvention. Pour les enfants, des activités ludiques sont proposées comme trouver le livre qui vous ressemble, suivre l'évolution des mots suivant les régions, pain au chocolat ou chocolatine,
ouais, oui.
Ah,
explorer l'origine des mots,
évidemment.
Le français, bref, une affaire d'État. En effet, si le français est la seule langue officielle de France, il cohabite depuis toujours avec de nombreuses langues régionales ou extraterritoriales. Aujourd'hui, 72 langues régionales sont officiellement reconnues. Vous pouvez les découvrir grâce aux luminaires sonores, c'est très amusant, des langues régionales qui diffusent chacune à leur tour une langue issue d'une région du territoire français, tandis que celle-ci s'éclaire sur une carte monumentale. C'est donc à Villers-Cotterêts, ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h, au tarif de 9€, et gratuit pour les moins de 26 ans. Il faut compter au moins 2 heures pour s'imprégner de ce lieu.
Merci beaucoup Alain de Frémont pour ce nouveau tour d'horizon culturel. C'est la fin de cette émission. On se retrouve évidemment comme tous les lundis matin à 8h. C'était Radio VCE avec Jonathan Denuit.